Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée du média suivant, la presse. Au programme, dopage accepté en musique classique. Et ce qui fait écrire Gérard Bouchard. Bonne écoute.
Dopage accepté en musique classique. Un texte de Catherine Perrin, paru le 23 mai 2023 dans La Presse. L'infinie quantité de détails à contrôler dans une performance musicale peut engendrer un stress qui va limiter la capacité de contrôle. Une violoniste doit filer des sons très doux au début d'un long et difficile concerto devant une salle pleine. Vous imaginez le résultat si sa main tremble de nervosité sur l'archet léger? Un peu le même que celui d'une main tremblante pour un tir à l'arc de haute précision. Un désastre. Benjamin Mathiot, doctorant en anthropologie, s'intéresse au stress vécu par les musiciens et aux moyens utilisés pour le contrôler. Historiquement, il fallait être fait fort. Ou boire de l'alcool pour amortir le stress, ce qui s'est beaucoup pratiqué, avec des effets rarement heureux. Mais les temps ont changé. Au tout récent congrès de l'ACFAS, Benjamin Mathiot a présenté une communication intitulée « Gérer le stress de performance par l'usage de smart drugs, compétition et quête de perfection chez les musiciens professionnels ». Une belle occasion de parler de dopage en musique et de faire un coming out. Moi, Catherine P., musicienne droguée. Oui, je l'avoue. Pour contrôler le tremblement dû au stress dévastateur au clavecin dont la touche hypersensible réagit au moindre effleurement, j'ai pris, à l'occasion, des bêta-bloquants. Une molécule magique nommée propranolol, conçu pour contrôler certaines arythmies cardiaques ainsi que la haute pression. Magique, parce qu'elle contrôle les flots d'hormones de stress qui mettent le musicien dans le trouble. Le cœur se calme, la main ne tremble pas, les muscles se détendent, mais la tête reste claire. C'est étrangement un professeur qui m'a initié à cette triche, à l'approche d'un récital déterminant, m'avouant du coup que la chose lui était familière. Une fois l'examen passé, j'ai bravement écarté cette solution de ma vie pendant près de 20 ans, convaincu qu'on ne mérite pas de faire carrière à ce prix. Puis, travaillant de plus en plus à la radio et à la télévision, où je n'ai jamais été embêté par le trac, merci la vie, n'ayant plus l'occasion d'être régulièrement en situation de performance musicale, je suis revenu au bêta-bloquant. Pour les grandes premières, et surtout pour les occasions où je n'ai qu'une brève apparition dans un concert ou quelques minutes à jouer dans une émission de télé, ces moments où l'attente joue dans la tête, où le temps de performance est trop court pour que le trac s'efface. À l'orchestre, c'est la situation que vivent tous ceux qu'on appelle les premières chaises. Le musicien peut passer 6 minutes sans jouer. Ses mains commencent à refroidir sur la scène extérieure d'un festival, puis soudain, vient un solo virtuose à découvert. Époque exigeante. Pendant une période où sa chaise d'un grand orchestre était mise en danger, Marc est devenu complètement dépendant des bêta-bloquants. Le musicien ayant requis l'anonymat pour éviter les représailles à son travail, nous avons changé son prénom. J'en prenais à chaque concert, à chaque répétition, même si un ami venait répéter à la maison. L'atmosphère était tendue à l'orchestre. J'avais perdu toute confiance en ma capacité de gérer le trac. Alors, je prenais mes pilules. Je me trouvais minable, imposteur, surtout en pensant au sportif à qui c'est interdit. Ce sentiment rejoint la perception qu'ont plusieurs musiciens de la prise de médicaments. Au congrès de l'ACFAS, une doctorante en anthropologie, Cassandre Ville, a rapporté avoir rencontré 16 étudiants d'une faculté de musique dont une minorité avait recours aux bêta-bloquants, mais qui avaient tous une opinion sur le sujet. Elle a constaté que, pour plusieurs, l'usage de bêta-bloquants remet en question la vocation du musicien, sa légitimité. L'usage du médicament signale une incapacité à gérer le stress, qui atteint alors un niveau pathologique. Certains déplorent la dépendance qui peut s'installer. Tout s'effondre si la pilule manque. D'autres affirment que le bêta-bloquant entraîne une perte de sensibilité artistique. À ce sujet, les avis divergent. Louis-Pierre Bergeron, corniste à l'Orchestre du Centre national des arts d'Ottawa, s'oppose quand on prétend que le médicament bride la musicalité. C'est faux. Au contraire, il me permet de me concentrer sur ce qui est important, d'entrer dans le flot, de m'abandonner. Vous écoutez « Dopage accepté en musique classique », un texte de Catherine Perrin, paru le 23 mai 2023 dans La Presse. C'est après avoir été envahi par un stress dévastateur lors d'une audition que Louis-Pierre Bergeron a décidé de tester le bêta-bloquant. J'étais trop frustré de me sentir très bien préparé, mais de me retrouver les mains moites, la respiration haletante, les muscles crispés, en train de gérer des symptômes physiques pénibles au lieu de faire de la musique. De plus en plus de musiciens professionnels avoue assez ouvertement utiliser le médicament en audition, cet exercice artificiel où on joue fin seul, derrière un rideau, des extraits d'œuvres particulièrement difficiles demandées par le jury. Louis-Pierre trouve notre époque bien exigeante. On a comme référence des enregistrements parfaits, mais au corps, la perfection est presque impossible. C'est un instrument délicat qui demande une énorme précision, vite mise en danger par le stress. Chaque instrument présente ses défis. Le violoncelliste du Quatuor Molinari, Pierre-Alain Bouvrette, a lui aussi adopté les bêta-bloquants. Jamais en quatuor, où la pression est bien répartie, mais pour les auditions et certains solos plus stressants. L'appréhension produit un surplus d'adrénaline qui devient un agent trouble. Le geste du vibrato s'accélère, ma musculature ne réagit plus de la même façon et c'est difficile de reprendre le contrôle. Pour lui, comme pour Louis-Pierre Bergeron, le choix des circonstances qui appellent l'usage, tout comme le dosage, du médicament est important. Un demi-comprimé de 10 mg suffira souvent une dose de bébé. Une longue thérapie, amorcée pour le débarrasser de sa dépendance, a amené Marc à relativiser son utilisation. J'en prends encore pour environ 30% de mes concerts. J'évalue la situation, les facteurs qui vont contribuer à nourrir mon stress et je dose. Parfois, c'est carrément un placebo, un quart de comprimé, mais je peux me rendre à 30 mg dans certains cas. Pierre-Alain Bouvrette a déjà avalé un comprimé à la dernière minute, ayant pigé le numéro 1 pour une audition. Il a bien joué sur de lui, sans savoir que le médicament met du temps avant d'agir. Il a compris par la suite avoir été couvert par l'effet placebo. Je demande à Marc comment il se sent maintenant en pensant aux interdits dans le domaine sportif. Pas super. Je vise encore à redevenir totalement clean. Mais j'ai compris que je ne fais pas ça pour avoir un avantage compétitif. Je sais que je suis un excellent musicien. Je le fais pour donner un meilleur résultat artistique. Louis-Pierre Bergeron voit les choses un peu de la même façon. La musique, ce n'est pas une compétition. C'est un médicament légal, facile d'accès, bénin, mais il ne rend personne meilleur. Au final, l'enjeu reste le même, qui est captivant, émouvant, intéressant à entendre jouer. De nombreux questionnements. Benjamin Mathiot appelle à la prudence quant à l'aspect bénin du médicament, rappelant qu'aucune étude n'a mesuré les effets sur la santé d'un usage à long terme dans un contexte de performance. Sur le plan psychologique, il perçoit des sentiments mitigés chez plusieurs utilisateurs qu'il a interviewés. L'estime de soi est souvent atteinte. La pilule préserve la perfection du jeu, mais menace le perfectionnisme, l'idéal qu'on se fait du métier. L'une des têtes dirigeantes du colloque de l'ACFAS sur les smart drugs en milieu de travail, la sociologue et historienne Joanne Cullen, a conclu la journée en soulignant que l'usage du bêta-bloquant par les musiciens soulève beaucoup plus de questionnements liés à l'identité que dans le cas des stimulants utilisés en restauration ou en finance, dont il avait été question le matin. Dans ces carrières où on valorise l'extrême, les gens sont souvent de passage. Le métier est moins constitutif de leur personnalité que la musique pour un musicien. Le sociologue Emmanuel Langlois, en visioconférence de l'Université de Bordeaux, a quant à lui embrassé le phénomène plus large du dopage cognitif dans notre époque de pharmaceuticalisation. Nous nageons dans des halos médicamenteux où chacun fait sa cuisine personnelle, bricole ses solutions, tout ça dans une relative acceptabilité. Selon lui, ce phénomène se compare à une forme embryonnaire de transhumanisme. Il affirme aussi que l'amélioration des performances est en train de s'ériger en droit, qu'on élève au nom d'une justice sociale contre le privilège des mieux nantis cognitifs. De cette réflexion, on pourrait conclure que l'aide médicamenteuse à la performance est là pour de bon, dans le milieu musical comme ailleurs. Je demande tout de même à Marc ce qu'il ferait si c'était interdit aux musiciens. Sa réponse est rapide. Je pense que je changerais de métier. Pour avoir entendu Marc jouer de nombreuses fois, je peux vous dire qu'on ne souhaite pas ça. Marc constate que la conversation sur le sujet s'est beaucoup ouverte entre les musiciens. Il n'en parle cependant jamais à ses étudiants. Je vais répondre à leurs questions s'ils m'en posent, mais je n'aborde pas le sujet moi-même. Je veux surtout les aider à gérer leur stress. Comment enseigner la confiance? Comment désamorcer la spirale vertigineuse de la perte de confiance? Excellent sujet pour un prochain rendez-vous. C'était « Dopage accepté en musique classique », un texte de Catherine Perrin, paru le 23 mai 2023 dans La Presse.
Ce qui fait écrire Gérard Bouchard, un texte d'Yves Boisvert paru le 21 mai 2023 dans La Presse. Chaque matin à 5h45, Gérard Bouchard commence sa routine d'entraînement. Musculation, vélo, étirement. Puis le chercheur qui a coprésidé la célèbre commission Bouchard-Taylor marche jusqu'à son bureau de Chicoutimi et se met à l'ouvrage. Longtemps, il partait, chronomètre en main, courir à l'aube en haut des montagnes de Charlevoix, en particulier l'acropole des Draveurs. À bientôt 80 ans, le médecin lui a suggéré de se modérer. Il calcule que ce qu'il perd maintenant en heures de mise en forme, il le récupérera en années de travail. Il y a tant à fouiller, tant à écrire. J'ai hâte d'arriver au bureau et je suis bien fâché quand je vois qu'il est déjà 6 heures. Faudrait pas que Lise, sa femme, le sache, mais je travaille aussi en cachette la fin de semaine. Je pense qu'elle s'en est rendue compte, dit le sociologue le plus prolifique du Québec. Il vient de faire paraître un ouvrage de 396 pages sur l'enseignement de l'histoire nationale, pour lequel il a lu 103 manuels scolaires québécois des deux derniers siècles, en plus de consulter la littérature savante sur le sujet, bien entendu. Combien a-t-il publié d'ouvrages? Il a arrêté de compter depuis longtemps. Il pense plutôt aux trois autres livres en préparation. L'un sur la Révolution tranquille des années 1960-1970, sujet sur lequel beaucoup de niaiseries ont été écrites. L'autre sur la grande noirceur qui l'a supposément précédée. Mais surtout, pour l'automne prochain, ce livre qui promet d'être l'œuvre de ses vies, sur lequel il travaille depuis 50 ans, qui portera un titre dont il est fier, « Terre des humbles ». En se basant sur des centaines d'entrevues réalisées depuis les années 1960 avec les derniers témoins de colonisation du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais aussi sur les écrits inédits du clergé, il dresse une histoire sociale de la région, qui est aussi celle du Québec à plusieurs égards. « Lucien m'a dit que je travaille trop fort », dit-il dans un éclat de rire. Son fameux frère, dont il est très près, travaille pourtant encore 50, sinon 60 heures par semaine dans son bureau d'avocat à 84 ans et n'est pas lui-même réputé pour sa fainéantise. Le plus beau moment, c'est l'écriture. Dans la première étape, tu lis plein de choses qui ne t'intéressent pas tout le temps. Ensuite, tu cherches une formule. Des gens parlent de talent, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est du travail, nous dit Gérard Bouchard. Le grand thème qui traverse l'œuvre de Gérard Bouchard demeure celui des mythes nationaux, ce qu'il appelle aussi les valeurs. C'est une préoccupation personnelle. Je me demande comment naissent les mythes dans une nation, comment ils s'effritent, comment une démocratie se met à craquer. C'est très sournois. Il donne l'exemple américain. Le mythe central de l'imaginaire américain, c'est l'American Dream, qui a marché de façon spectaculaire jusqu'au début des années 1980. Ça disait, si vous venez chez nous et que vous travaillez assez fort, vous allez être récompensé. Quand ça allait mal, personne ne disait, c'est la faute de la société. Les gens disaient, c'est parce que vous n'avez pas travaillé assez fort. Petit à petit, le mythe a été mis à mal. Les salaires ont plafonné, les emplois se sont délocalisés, les communautés ont été éprouvées, les inégalités ont augmenté. Les gens ont commencé à dire que le pays ne remplissait plus sa part du contrat. Même en travaillant fort, on n'arrive pas à acheter une maison, envoyer ses enfants à l'université, etc. Les sondages montrent qu'on est parti de 80 % de la population qui adhérait à l'American Dream il y a 60 ans à 20-25 % de gens qui y croient maintenant. Terre des humbles. Plus profondément, qu'est-ce qui fait vibrer la fibre sociologique de Gérard Bouchard? Ça vient tout le temps de l'expérience familiale. Le mot « traumatisme » est peut-être trop fort, mais j'ai ressenti très, très tôt les inégalités sociales. Mon père, qui avait deux jobs, a eu assez d'argent pour acheter une voiture et un jour, il nous a emmenés visiter le quartier des contremaîtres de la Price, le quartier anglais de Jonquière, Kenogami. J'ai vu des jeunes qui n'étaient pas habillés comme nous autres, qui n'allaient pas dans les mêmes écoles, qui avaient des ballons neufs, des terrains de jeu, et qui vivaient dans ce qui nous semblait des châteaux. Je suis revenu troublé à la maison, et je peux dire que tout mon itinéraire a été marqué par ça. J'ai toujours travaillé pour les plus faibles, les plus pauvres. Lucien, lui, a réagi en se disant qu'il allait se sortir de là, qu'il allait réussir. Moi, je ne l'ai pas traduit en ambition personnelle, mais en carrière de recherche. Comment se fait-il que des gens se rendent malades et meurent trop jeunes dans les quartiers ouvriers? Pourquoi nos parents sont inquiets toute leur vie? J'avais pitié de mes parents. C'est pas un sentiment normal, ça. Vous écoutez « Ce qui fait écrire Gérard Bouchard », un texte d'Yves Boisvert paru le 21 mai 2023 dans la presse. Un jour, pendant qu'il étudiait le droit à l'Université Laval, Lucien m'avait emmené rencontrer les étudiants qu'il fréquentait. Quand je suis revenu, j'avais compris ce que je ne voulais pas faire. En sociologie, on se demande pourquoi les sociétés sont mal foutues. Pourquoi il y a des rapports de pouvoir, évoque Gérard Bouchard. Il revient sur cet ouvrage à paraître, qui est l'envers de l'histoire officielle et édifiante de la colonisation de sa région natale. Terre des humbles, le titre dit tout. Ça ne porte pas sur les riches de Chicoutimi ou les grands personnages, mais sur ceux qui ont traversé à pied les montagnes de Charlevoix pour venir défricher des terres. Ils arrivaient les pieds gelés, il fallait parfois les amputer. Ils mangeaient des patates, et quand il n'y en avait plus, ils mangeaient les pelures, et après, il n'y avait plus rien et ils mangeaient leurs chiens. Je ne peux pas me libérer de ça. Ils arrivaient sur des terres sauvages, même pas arpentées. Il fallait protéger la nourriture des ours. Ils allaient dormir avec leurs animaux pour se réchauffer. Les enfants mouraient en grand nombre. Il fallait les enterrer l'hiver derrière leur camp. Et quand venait le temps de leur faire une sépulture, souvent, ils ne les retrouvaient même pas. Moi, je veux montrer ça. Les filles de 14 ans à qui personne n'avait parlé de menstruation, qui se croyaient malades et qui allaient laver leurs vêtements en cachette. Elles arrivaient au mariage sans rien savoir, apeurées. Certaines se sont fait raconter que l'embryon se nourrissait d'éjaculation et qu'il fallait absolument continuer à avoir des relations sexuelles pendant toute la grossesse. C'est des femmes de 80 ans qui me racontaient ça en pleurant il y a 60 ans. Comment veux-tu aimer le clergé? Sauf le bas clergé, je fais une différence. Les sœurs et les frères se faisaient d'ailleurs mépriser par la hiérarchie. J'anticipe sur ces publications. Pour l'heure, son nouvel ouvrage est un plaidoyer pour l'enseignement d'une histoire du Québec qui développerait un lien affectif avec la nation. Il rejette une histoire assimilationniste qui ne serait que le récit de la majorité. Il en a aussi contre une histoire relativiste qui exclut la construction d'une culture commune et d'une formule d'intégration sous prétexte que toutes les cultures sont égales. Il préconise une histoire nationale qui intègre les minorités au récit majoritaire. Comment? En soulignant un dénominateur commun, les valeurs reconnues dans la Charte québécoise des droits de la personne. Dans tout rapport social qui fonctionne, il y a des valeurs pour les soutenir, dit-il entre deux gorgées de thé noir. Que ce soit l'amitié, la famille, les groupes ethniques, la main-d'œuvre d'une grande compagnie. Avant la Révolution tranquille, les sources des valeurs étaient la famille, la religion, les médias, le discours politique, la littérature, la chanson. Mais tous ces vecteurs-là se sont affaiblis ou sont carrément disparus. Il reste l'école. Avant les années 1960, ou disons avant le rapport Parent qui a jeté les bases de l'école publique laïque au Québec, le clergé avait assigné à l'histoire nationale une fonction bien précise. On enseignait aux jeunes Canadiens français qu'ils étaient issus d'une race pure, d'un peuple élu avec une mission dans le monde. On disait aussi aux habitants qu'ils devaient s'approcher le plus possible de la sainteté et toutes sortes d'affaires folles comme ça. Depuis une soixantaine d'années, les programmes insistent plutôt sur les valeurs universelles, mais en sombrant dans la platitude chronologique, au point généralement d'évacuer soigneusement le mot « nation » qui semble presque toxique. Pourtant, l'histoire nationale peut s'ouvrir à la mondialisation sans se renier, dit le sociologue. L'histoire est censée éclairer des événements du présent. Ça ne se fait pas. On pourrait par exemple aborder la tolérance en parlant de l'interdiction des protestants en Nouvelle-France, le rapport à l'Autochtone pour parler du racisme, la déportation des Acadiens pour parler du colonialisme, affirme Gérard Bouchard. Un peu comme si l'histoire enseignée avait peur d'évoquer un passé honteux ou glorieux pour se camper dans une description froide d'événements successifs. Quand je parle des valeurs communes, certains me disent « Ce sont les valeurs de l'ONU, ça ne parle pas à notre histoire, ce ne sont que des platitudes universelles. » Pourtant, elles sont là partout dans notre passé, il suffit de les excaver. Le mouvement des femmes, la lutte contre le clergé, le syndicalisme, la rébellion. On a toujours voulu voir notre histoire comme très particulière, n'appartenant qu'à nous, penser qu'on est très différent des autres. On n'est pourtant pas tout seul à avoir lutté contre le colonialisme, comme si ça nous enlevait quelque chose, comme si ça banalisait notre histoire en tentant de la comparer avec les autres. Il faut au contraire les comparer, se demander pourquoi les rébellions ont échoué ici et réussi ailleurs. Le comparatif qui est une veine d'une richesse infinie. Dans les manuels, ils ont introduit les comparaisons, mais ridicules. Vous avez 25 pages sur l'histoire du Québec, puis une demi-page sur l'Éthiopie, ou une page sur la Hongrie, qui résume l'ABC de ces pays. Ils auraient pu prendre des exemples des pays d'où viennent la plupart des minorités et les expliquer. Il n'y a rien. C'est plate à mort. Car le plaidoyer de Gérard Bouchard est aussi pour une histoire qui vibre dans les écoles comme elle vibre en lui. C'était ce qui fait écrire Gérard Bouchard, un texte d'Yves Boisvert paru le 21 mai 2023 dans la presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et André Lebeau à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zwartmann à la présentation et au montage.